revendications. Je crois que je ne vais pas réussir à échapper à une comparaison de l'asile en Europe. Non, je plaisante. Je ne suis pas très forte en chiffres, c'est pour ça que j'essaye de biaiser. Il y a
des inégalités. C'est pas le temps en chiffres, c'est plutôt dans l'esprit.
Oui. Alors, c'est l'occasion de parler quand même de Dublin et de la forteresse Europe et des disparités au sein de l'Europe. Les pays européens de l'espace Schengen ne reçoivent pas tous le même nombre de demandeurs d'asile parce que même s'il y a une fiction comme quoi Schengen c'est un tout et on circule librement dans Schengen, l'Europe, bah, vous connaissez la géographie comme moi, certains pays ont plus de côtes ouvertes sur le reste du monde que d'autres. Donc fatalement, l'Italie et la Grèce concentrent un grand nombre des demandeurs d'asile, mais aussi les pays d'Europe de l'Est, parce que ceux qui arrivent de Russie, de Tchétchénie ou maintenant de Turquie même, enfin, par le Moyen-Orient, vers la Syrie, etc., vers la Turquie, essayent de passer ensuite par la Hongrie et la Bulgarie parce que les voies maritimes se ferment les unes après les autres. Donc il y a beaucoup plus de demandeurs d'asile dans ces pays-là ou en Pologne, et ils y sont souvent moins bien traités que dans des pays où ils sont moins nombreux, notamment en Scandinavie. En Scandinavie, c'est tout en haut. Donc, pour arriver jusqu'en haut, il faut bien galérer. Et quand on arrive en haut, on est moins nombreux et c'est des États un peu plus aisés et qui donc peuvent les accueillir un peu mieux. C'est aussi des questions de tension des flux. Ça, c'est conditionné aussi par les règlements de Dublin, qui sont des règlements européens, qui en gros disent, c'est aussi le thème de notre appel du mois, parce qu'il concentre tous les problèmes, cette pauvre famille concentre vraiment tous les problèmes. Le règlement de Dublin, ça dit en gros que quand vous arrivez quelque part en Europe, le premier pays où vous touchez terre et où vous demandez l'asile, c'est là que vous y resterez. Et donc par exemple, si vous êtes débarqué du cargo en Italie, c'est en Italie que vous devez aller faire votre demande d'asile. Pareil, si vous arrivez par la Biélorussie et que vous arrivez en Pologne, c'est en Pologne que vous devez faire votre demande d'asile. Et si vous essayez d'aller en Allemagne parce que vous avez des cousins ou que vous allez en France parce que vous pensez que c'est encore le pays des droits de l'homme, la France va vous renvoyer vers la Pologne ou vers l'Italie. Ou l'Allemagne va faire pareil d'ailleurs. Parce que ça sera le premier pays où vous serez arrivé qui est responsable de votre demande d'asile. C'est la notion d'État responsable. C'est le pays qui doit vous reprendre. Et donc, c'est pour ça qu'on a du ping-pong, des demandeurs d'asile qui sont ballottés d'un pays à l'autre. Mais bien entendu, il y a des pays qui ont envie d'être un peu plus dissuasifs. Donc la Pologne, par exemple, et la Grèce, ou la Hongrie et la Bulgarie, ont été montrés du doigt aussi par la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit que les conditions pour les demandeurs d'asile, ils sont quasiment inhumaines et ils sont indignes. Mais comme par hasard, c'est les pays qui sont au bord de l'espace Schengen et qui essayent un maximum de dissuader les demandeurs d'asile d'arriver chez eux, parce que s'ils arrivent chez eux, ils doivent y rester à cause de Dublin. Donc tout ça est lié en fait. S'il reste un moment, j'aurais voulu vous parler, parce que j'en ai pas parlé plus tôt, alors je pense que c'est fondamental, de la notion de vulnérabilité, qui est aussi un concept importé des directives européennes et qu'on retrouve dans la loi, dans le projet de loi asile, là encore un petit peu déformé. Les directives européennes imposent aux États membres, dont la France, d'offrir des garanties d'accueil, des garanties matérielles adaptées aux personnes les plus vulnérables. Ça veut dire les personnes, on comprend bien, enfin, c'est comme les femmes et les enfants d'abord, les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, qui ont le plus besoin, il faut s'adapter à leurs besoins. Donc, c'est ça aussi une idée d'égalité des chances. Il faut les mettre à égalité dans leurs chances de pouvoir se poser, pouvoir se raconter, demander l'asile. La France a importé le concept, mais l'a un peu retourné. Et donc, a dit, a instauré dans le projet de loi, un mécanisme de détection de la vulnérabilité. En disant, comme il faut repérer qui a le plus besoin, on va l'évaluer dès le départ, on va les détecter. Alors, détecter, c'est pas pareil que diagnostiquer. Et c'est pas vraiment pareil que aider. Moi, je trouve que c'est... les termes sont pas anodins. Donc, il est prévu que les demandeurs d'asile, quand ils arrivent à la préfecture, au guichet de l'administration, ils rencontrent quelqu'un de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. C'est de l'administration, hein, c'est pas des médecins. Et qu'à ce moment-là, on évalue leur vulnérabilité. Alors, pour constater qu'une femme est enceinte de 8 mois, ou qu'une personne a plus de 70 ans et est en fauteuil roulant, ou qu'il lui manque deux bras et une jambe, ça va, je pense que l'office peut gérer ça. En revanche, pour entendre des psychotraumatismes complexes, pour voir que quelqu'un a subi des violences graves, ou est dans une difficulté à se raconter du fait d'un vécu très complexe, ou subit des pressions qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu, là, c'est ni des médecins, ni des psychiatres, ni des assistantes sociales. Il n'est pas prévu qu'il y ait d'interprétariat gratuit et automatique au guichet, donc je ne vois pas trop comment ça va se passer. Est-ce que c'est avec un QCM, un questionnaire, hein, pour cocher des cases? Est-ce que vous êtes traumatisé? Oui, non. Est-ce que vous avez été torturé? Oui, non. Enfin, voilà, c'est pas pensable. Et c'est pourtant comme ça que ça risque de se passer. Et c'est d'autant plus inquiétant que la vulnérabilité, ce concept est retourné dans le projet de loi. C'est plus on va donner plus aux vulnérables des garanties matérielles d'accueil. Oui, c'est de bon sens. Si vous êtes en fauteuil roulant, on ne vous donne pas une chambre au quatrième étage sans ascenseur. Ça va, tout le monde peut comprendre. Mais c'est retourné en disant les plus vulnérables, on pourra leur redonner des droits qu'on leur avait enlevés. C'est pas on leur donne plus, c'est on donne moins aux autres, mais à eux, on rend quelque chose qu'on aurait pu leur prendre. Je m'explique. L'administration peut placer les moins crédibles en procédure accélérée, ou peut placer une personne en zone d'attente ou en rétention, mais peut aussi sortir cette personne de procédure accélérée ou la sortir de zone d'attente ou la sortir de rétention si elle estime que cette personne est vulnérable. Donc on fait de la liberté de base, avoir le droit d'exposer pleinement sa demande d'asile, être en liberté, ne pas être en zone d'attente, avoir un panel de juges et pas un juge unique, on fait de ces droits fondamentaux des luxes qu'on va offrir en VIP aux plus vulnérables, au lieu de reconnaître qu'en fait c'est la base et que tout le monde y a droit. Je ne sais pas si vous voyez comment ça s'inverse. Autre problème, cette vulnérabilité, parce qu'on ne se donne pas les moyens de l'apprécier vraiment, le projet de loi la conçoit par le petit bout de la lorgnette. Si c'est une administration qui va devoir l'évaluer et la détecter en cochant des cases, autant dire que la définition doit être plutôt simple, pour ne pas dire simpliste. Et donc, la vulnérabilité des demandeurs d'asile, elle est envisagée que sous deux aspects. D'une part, l'aspect purement physique, donc voilà, une femme enceinte, une personne âgée, un handicap, une maladie visible. Ou des choses qui sont censées être moins visibles, mais qui sont certifiables. Le fait d'être un mineur, donc on vous fait une radio, si la radio montre que vous avez moins de 18 ans, on considère que vous êtes mineur, je vous laisse apprécier. Ou autre catégorie de personnes qui seront réputées vulnérables sur certificat, les victimes de torture. Donc en gros, si vous pouvez prouver avec un certificat que vous avez été torturé, on vous rend vos droits, et puis sinon, vous n'êtes pas un vrai vulnérable non plus. Donc c'est un double préjugé. C'est un préjugé doublement dangereux parce que c'est si vous avez déjà souffert, vous êtes plus crédible. Si vous avez déjà souffert et que vous êtes vulnérable, vous êtes un bon demandeur d'asile. Et si vous avez souffert, bah c'est que ça se voit. Et si ça se voit, c'est que quelqu'un peut le certifier. Donc c'est doublement erroné. On peut très bien et heureusement avoir fui à temps et pas avoir souffert encore, pas avoir été encore persécuté, mais avoir des craintes de persécution. Et aussi parce qu'on peut avoir souffert et que ce ne soit pas écrit sur votre visage, Et c'est pas en mesurant la taille d'une cicatrice ou en allant faire des investigations qui sont attentatoires à la liberté, à la vie privée, ou qui sont extrêmement invasives, qu'on va pouvoir déterminer si oui, celui-là, il a le bon tampon, vulnérable ou pas vulnérable. Donc la vulnérabilité devient un peu un label, en fait. Et ça, c'est une déformation de quelque chose qui était peut-être parti d'une bonne intention dans les directives européennes, mais qui est encore un outil de tri avec un risque de discrimination dans le projet de loi asile. C'est le sens, transition, de notre deuxième postale. Alors, si vous ne les avez pas déjà vus, je vous invite à regarder sur la table, il en reste peut-être encore. J'en ai apporté sinon. Donc, il y a des courriers de la 4 et le magazine dans lequel il y a un dossier entièrement consacré à l'asile. Il y a des appels du mois. Je vous invite à aller sur notre page web, sur le site internet de l'ACAT. Il y a une page web entièrement consacrée à la campagne asile, qui s'appelle campagne asile au rabais. Donc on est contre l'asile au rabais. Avec tous les documents que vous pourrez trouver dont j'ai parlé. L'analyse très technique, les propositions d'amendement, bon appétit. Le dossier de l'ACAT. Mais aussi des visuels de campagne, et notamment ces cartes postales. Et vous comprendrez, j'espère après la conférence, le sens de ces cartes postales. La deuxième carte postale, on voit quelqu'un de l'OFI qui dit à un garçon « Ce que vous décrivez comme une blessure par machette ressemble fort à une cicatrice de chute de vélo. Il est où votre certificat de torture ?» C'est très caricatural, bien entendu. Mais concrètement, on voit des juges et on voit des administrations qui nous demandent des certificats en disant son dossier est un peu faible, on a un peu du mal à le croire, vous n'auriez pas un certificat qui nous dise qu'il a vraiment été torturé ? En pensant que nous, parce qu'on est la CAT et qu'on défend la lutte contre la torture et les victimes de torture, on va se mettre à certifier des choses pareilles. La parole, c'est fondamental. Donc nous, on est là pour dire écoutez les gens, arrêtez de certifier et de les prendre comme des objets qui peuvent se mesurer. On peut ne pas avoir encore souffert et avoir des vraies craintes de persécution. On peut avoir souffert et ne pas avoir envie d'en parler. Et on peut avoir souffert que ce ne soit pas quantifiable et certifiable. Et ce n'est pas aux experts de venir mesurer des humains. C'est indécent. C'est à vous d'écouter le récit de cette personne et de vous laisser convaincre.